VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 29 janvier 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Alberton.
Nous commençons par les titres.
Au moins 4 soldats ont été tués dans une attaque hier dans le nord du Burkina Faso.
Arrestation hier soir à Douala, au Cameroun, de l'opposant Maurice Kamto, 2 jours après les manifestations organisées contre le président Paul Biya.
La République démocratique du Congo a annoncé hier avoir extradé vers le Rwanda 2 chefs rebelles Hutus des FDLR.
Ici à Washington, l'administration Trump a imposé des sanctions contre la compagnie pétrolière nationale du Venezuela, accentuant les pressions sur le président Nicolas Maduro.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, au moins 4 soldats ont été tués et 4 autres blessés hier à Nassoumbou, dans le nord du pays. Dimanche, une autre attaque avait coûté la vie à 10 civils. Le point avec Bagassi Koura.
Des individus lourdement armés non identifiés ont attaqué hier matin la base militaire de Nassoumbou. Ils sont arrivés à bord d'engins à 2 roues. Ils ont tiré avec des roquettes, déclenchant un incendie dans la même base où 12 soldats ont été tués en décembre 2016. La force française Barkhane a dû intervenir avec un avion Mirage venu de Niamey au Niger et un hélicoptère Tigre venu de Gao au Mali. Les assaillants ont battu en retraite en direction de la frontière malienne. Dimanche, 10 civils ont été tués par des assaillants qui ont ouvert le feu sur les habitants du village de Sikiré, à moins de 100 km de Nassoumbou. Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur les 45 que compte le Burkina Faso. Malgré tout, le 10 janvier, 12 civils ont été tués dans le village de Gassiliki. Face à la multiplication des attaques qui ont fait près de 300 morts, le président Roch Kabore a limogé le chef d'état-major des armées et remplacé la semaine dernière les ministres de la Défense et de la Sécurité.
Au Cameroun, arrestation hier soir à Douala de l'opposant Maurice Kamto, qui revendique toujours la victoire à la présidentielle d'octobre, après être arrivé 2e derrière le président Paul Biya. Contacté par l'AFP, les autorités n'ont pas donné suite lundi soir. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC de M. Kamto, avait appelé à marcher samedi dans tout le pays contre la réélection de Paul Biya. 85 ans, dont 36 au pouvoir. 117 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations où la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Au moins 6 personnes, dont l'avocate Michel Noki, ont été blessées samedi. Le MRC a affirmé que la police avait tiré à balles réelles sur les manifestants, ce que Yaoundé a démenti.
À Libreville, une peine de 8 ans de prison, dont 3 avec sursis, a été requise lundi par le procureur de la République envers un blogueur militant gabonais qui avait projeté en 2017 des vidéos hostiles au pouvoir dans un lieu public. Hervé Mombo Kinga a comparu lundi au tribunal de Libreville pour sa première audience depuis son arrestation le 31 août 2017, a indiqué son avocat à l'AFP. Monsieur Mombo Kinga est poursuivi pour propagande tendant à troubler l'ordre public et outrage envers le président de la République.
En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé hier avoir extradé vers le Rwanda 2 chefs rebelles Hutus des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont leur porte-parole basé est fils Laforge. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Les 2 individus étaient recherchés par la justice de leur pays. Nous les avons extradés en application d'un accord de coopération judiciaire entre la RDC et le Rwanda, a déclaré Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa. Pire, lors de l'interpellation de Bazeï fils Laforge, porte-parole des FDLR, il était en situation répréhensible, a-t-il ajouté. Monsieur Mende n'a pas voulu révéler le jour de l'extradition ni la nature des actes répréhensibles reprochés à Monsieur Bazeï Laforge. Mi-décembre, les autorités rwandaise avait annoncé l'arrestation des 2 responsables FDLR en RDC avant la confirmation des officiels congolais. Les FDLR sont présentes dans l'est de la RDC depuis 1994. Certains de leurs chefs sont accusés d'être responsables du génocide qui a fait près de 800 000 morts au Rwanda.
Au Nigeria, le principal candidat de l'opposition, Atiku Abubakar, a jugé hier anticonstitutionnelle la suspension par le chef d'État Muhammadu Buhari du président de la Cour suprême, et ce à quelques semaines de l'élection présidentielle du 16 février. Nani Talani.
Le président Muhammadu Buhari a suspendu vendredi Walter Onogen, accusé de n'avoir pas déclaré plusieurs comptes bancaires en devises étrangères. Il a nommé à sa place un juge originaire du nord du pays comme lui. Atiku Abubakar, l'un des principaux adversaires de M. Buhari, a estimé que cette suspension est illégale et représente une violation manifeste de la Constitution qu'il a qualifiée d'acte éhonté de dictature. Les magistrats, pour leur part, considèrent que c'est une tentative de coup d'État contre l'appareil judiciaire. L'Union européenne, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont exprimé samedi leurs préoccupations. Mais le gouvernement d'Abuja se défend. Pour Garba Shehu, porte-parole du président Buhari, la constitution nigériane prévoit que le président ne peut renvoyer le plus haut magistrat du pays qu'avec l'approbation des deux tiers des sénateurs. Selon lui, M. Onogen n'a pas été renvoyé, mais suspendu pour avoir refusé de se retirer sur une base volontaire.
Les présidents français et égyptiens Emmanuel Macron et Abdel Fattah al-Sissi ont défendu leur vision respective des droits de l'homme lundi au Caire, au deuxième jour d'une visite destinée à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. D'un ton courtois mais ferme, les deux dirigeants ont assumé leur désaccord, d'abord au cours d'un tête-à-tête de 2 heures, puis devant les journalistes, au cours d'une conférence de presse dominée par cette question des droits fondamentaux. On peut se dire les choses de manière très franche, sans considérer qu'on vient ni donner des leçons, ni déstabiliser, a déclaré M. Macron. Il faut dire qu'en recevant en octobre 2017 à Paris son homologue égyptien, M. Macron avait refusé de lui donner des leçons, ce qui avait été dénoncé avec force par les ONG internationales.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. L'administration Trump a imposé des sanctions contre la Compagnie pétrolière nationale du Venezuela, la PDVSA. L'administration dit vouloir empêcher le détournement de davantage de ressources du peuple vénézuélien. Pour John Bolton, conseiller du président Trump en matière de sécurité nationale, le président Nicolas Maduro et son régime ont déjà fait subir à leur peuple assez d'oppression et de difficultés économiques. Ces sanctions interdisent à la PDVSA de faire du commerce avec des entités américaines et ses avoirs à l'étranger. Les raffineries de sa filiale aux États-Unis, Citgo, pourront continuer à fonctionner, les transactions financières passant par un compte bloqué, a précisé le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. Les États-Unis ont reconnu Juan Guaido, le leader de l'opposition, qui la semaine dernière s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela.
Les pourparlers de paix entre les États-Unis et les talibans pour mettre fin à 17 ans de guerre en Afghanistan sont encourageants. C'est ce qu'a fait savoir à Washington le ministre de la Défense par intérim. Précision de John Linden.
Les États-Unis ont longtemps refusé des pourparlers directs avec les talibans afghans. Hier, Patrick Shanahan, patron par intérim du Pentagone, a estimé que les négociations menées jusqu'ici sont encourageantes. Questionné sur un éventuel retrait de la moitié des 14 000 soldats américains en Afghanistan, il s'est abstenu de tout commentaire. Par contre, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui se trouvait à côté de M. Shanahan, a jugé qu'il était trop tôt pour parler d'un retrait des forces de l'OTAN d'Afghanistan. Pour sa part, l'émissaire américain pour la paix en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a annoncé qu'une ébauche d'accord a été établie à Doha avec les talibans pour mettre un terme aux 17 ans de conflit. « Il y a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir dire que nous avons réussi », a-t-il ajouté. La condition première à toute négociation pour les talibans était le retrait des forces étrangères d'Afghanistan, selon le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, avant, c'est pour parler, de Doha au Qatar.
Les États-Unis ont annoncé hier une série d'inculpations contre Huawei, la directrice financière de ce géant chinois des télécoms, Meng Wanzhou, ainsi que plusieurs filiales de Huawei accusées de fraude et de vol de secrets industriels américains. Meng Wanzhou, fille du fondateur du groupe, a été arrêtée au Canada en décembre à la demande des enquêteurs américains qui l'accusent de violation des sanctions contre l'Iran. Son arrestation a déjà provoqué des remous entre les États-Unis et le Canada d'une part et la Chine de l'autre. Dans des représailles apparentes, Pékin a depuis arrêté deux Canadiens et un tribunal chinois en a condamné à mort un troisième.
En marge de la conférence de presse consacrée à cette affaire de Huawei, le ministre américain de la Justice par intérim, Matthew Whitaker, a annoncé que l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 est proche d'être conclue. « J'ai été mis au courant de façon exhaustive sur l'enquête et j'ai hâte que M. le directeur Mueller rende son rapport final », a ajouté M. Whitaker. C'est la première fois qu'un responsable américain de ce niveau annonce une fin proche pour l'enquête russe.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement ivoirien prévoit d'investir 1230 milliards de francs CFA dans le secteur de l'eau d'ici à 2020. Selon Ecofin, ces fonds serviront à résoudre les problèmes liés à l'accès à l'eau potable dans différentes localités du pays, y compris Abidjan. Pour sa vente aux enchères de diamants qui aura lieu jeudi, l'Angola utilisera un système scellé grâce auquel les intéressés soumettront leurs offres par voie électronique sans savoir ce que les autres ont misé. Auparavant, les producteurs étaient obligés de vendre par le biais d'un système de marketing gouvernemental opaque à des acheteurs choisis par l'État angolais. Ce processus aboutissait à des prix inférieurs au niveau international. Le choix des scellés devait permettre d'obtenir les prix les plus élevés. Pour l'Angola, c'est aussi un pas vers la transparence et l'innovation dans la commercialisation de ces diamants. Terminons avec la Banque centrale du Kenya qui maintient son principal taux débiteur à 9,0%. Le taux d'inflation d'une année sur l'autre a été de 5,7% le mois dernier, ce qui correspond à la fourchette du gouvernement entre 2,5% et 7,5%. Le comité de la Banque centrale kenyane met toutefois en garde contre le risque d'une volatilité sur les marchés mondiaux à cause du ralentissement de la croissance économique mondiale, du Brexit et de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La reprise du championnat a été boycottée au Cameroun.
Oui, plusieurs mois que les amoureux du football au Cameroun attendaient le retour des championnats, mais le match de reprise initialement programmé ce week-end entre Edin Sport de Lekki et Nyang Sport Academy de Bamenda n'a pas pu avoir lieu. À l'appel du syndicat des clubs de l'élite du Cameroun, Nyang n'a pas fait le déplacement. Depuis plusieurs semaines, le syndicat est en conflit avec la Ligue de football à qui il reproche des décisions arbitraire, dont celle d'augmenter le nombre de clubs en Ligue 1 à 20 et d'organiser la compétition en poule.
Le Maroc jouera contre l'Argentine le 26 mars.
Et oui, la rencontre aura lieu au stade Moulay Abdallah du Rabat. Ce sera la troisième confrontation entre les deux nations avec jusque-là deux victoires pour l'Albicéleste. Ce match interviendra quelques jours après la rencontre face au Malawi dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Lions de l'Atlas ont déjà validé leur ticket pour l'Égypte.
Moussa Sow dépose ses valises en Turquie.
Sans contrat depuis son départ d'Al Ahly en Arabie Saoudite, le Sénégalais vient de s'engager avec Gaziseir Gaziantep FK, un club de deuxième division. Âgé de 33 ans, Moussa Sow était pourtant courtisé par des clubs de Super League, la première division turque. Passé par Fenerbahçe et Bourasspor notamment, Sow a paraffé un contrat de 18 mois avec sa nouvelle formation.
Retour à Madrid d'Alvaro Morata.
Oui, l'avant-centre international espagnol barré à Chelsea a été prêté à l'Atlético Madrid, dont il avait défendu les couleurs chez les jeunes. Morata, 26 ans, est prêté pour une saison et demie au club Colchonero. Cette saison, sous les ordres de Mauricio Sarri, l'attaquant espagnol n'a signé que 5 buts en 16 matchs de championnat d'Angleterre. Il vient renforcer une attaque privée depuis début décembre de son concurrent direct en sélection, l'hispano-brésilien Diego Costa, qui se remet d'une opération à un pied. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Charlotte et New York 101 à 92, Golden State et Indiana 132 à 100, Boston et Brooklyn 112 à 104, Denver et Memphis 95 à 92.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, rien ne va plus entre le président Alassane Ouattara et l'ex-président Henri Konan Bédié, les deux anciens alliés au sein du RHDP qui ont multiplié les pics cette semaine. Dans le même temps, M. Ouattara a annoncé que Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, va quitter son poste le mois prochain. Est-on surpris par la tension Ouattara-Bédié? Idriss Fall a posé la question à Alexis Tano, directeur du journal Le Jour Plus à Abidjan.
Non, le phénomène est connu depuis 7 mois en arrière, depuis que le président du PDCI a décidé de sortir de l'alliance. Les deux parties ne sont plus entendues et la situation a dégénéré jusqu'à la formation concrète du parti politique RHDP le samedi dernier.
Ouattara Bédié, est-ce qu'on risque de revenir à ces fameux conflits des enfants d'Oufoué?
Mais c'est déjà engagé. Quand vous entendez les discours de part et d'autre samedi dernier, l'ancien président du Côte d'Ivoire, le président du PDCI qui a déjà lancé les pics depuis Daoukro, et il a été répondu par le président du nouveau parti RHDP en meeting au stade Félix Oboï, il faut dire que la bataille est déjà engagée pour 2020 et on a même bien peur qu'on retombe dans les travers du passé.
Et tout ceci intervient alors que Guillaume Soro lui aussi annonce qu'il va quitter la tête de l'Assemblée nationale.
Oui, le bruit courait, mais cela a été confirmé par le chef de l'État lui-même ce matin au cours d'une présentation de vœux à la presse nationale et internationale. Le président de la République de Côte d'Ivoire a annoncé que Guillaume Soro et lui se sont entendus et que ce dernier présentait sa démission dans le courant du mois de février.
Et Guillaume n'était pas présent à l'ouverture du congrès du RHDP, le nouveau parti de M. Ouattara.
Non, Guillaume Soro avait déjà délégué ses pouvoirs à l'un de ses vice-présidents, à la personne du député Oula Priva. Mais bien avant, il avait rencontré le chef de l'État pour lui annoncer les réserves qu'il avait déjà émises sur la formation du RHDP en tant que parti unifié. Il faut signaler aussi que Guillaume Soro avait déjà eu une inscription dans une université aux États-Unis, donc il devait y rendre pour poursuivre ses études.
Et ce qui va compliquer la chose, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI, même si on attend sa sortie de prison.
Oui, ça pourrait déjouer effectivement les calculs, mais la participation de Laurent Gbagbo aux élections de 2020 n'est pas encore claire, étant donné que les poursuites judiciaires engagées contre lui, aussi bien au pays qu'à la haine, ne sont pas encore définitivement closes. Donc, il faut comprendre que la situation de Laurent Gbagbo n'est pas tout à fait claire. La bataille se joue d'abord entre les partis qui existent déjà, la plateforme que l'ancien président Henri Konan Bédié veut former, la plateforme de l'opposition contre le RHDP, et le parti nouvellement créé RHDP qui entend garder le pouvoir. Le président de la République, Alassane Ouattara lui-même l'a dit, il veut garder le pouvoir jusqu'en 2050. Est-ce que l'opposition, avec la nouvelle plateforme qui va se former, aura les moyens de le déblonner 2020?
Joint à Abidjan, le journaliste Alexis Tano.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a suspendu vendredi dernier le président de la Cour suprême Walter Samuel Onoghen de son poste, l'accusant de corruption. M. Buhari, qui brigue un second mandat, a immédiatement nommé un président par intérim, une décision qui lui a valu de vives critiques à quelques semaines de la présidentielle. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
C'est après une longue polémique sur son procès pour corruption que Muhammadu Buhari a finalement suspendu le président de la Cour suprême du Nigeria, Walter Samuel Onoghen, de son poste. Le chef de l'État nigérien a nommé un président de la Cour suprême par intérim, Ibrahim Tango Muhammad, originaire du nord du pays, sur ordre du tribunal du code de conduite. La nomination de ce dernier, alors que l'affaire était encore devant la justice, a provoqué une vague d'indignation au sein du système judiciaire, de la société civile et de l'opposition. La première réaction est venue du président principal parti d'opposition, le PDP, qui a suspendu sa campagne électorale pour 72 heures depuis samedi en signe de protestation. Kola Olugonya est son porte-parole.
Nous avons suspendu notre campagne électorale pour les prochaines 72 heures afin de dénoncer les machinations de fraude électorale du président Muhammadu Buhari. Vous vous rappelez que nous avions alerté la nation à plusieurs reprises des machinations du président Buhari pour voler les élections de 2019.
Le candidat à la présidentielle du parti d'opposition ADP, Youssouf Sani, a également réagi à la suspension du plus haut responsable de la justice du Nigeria.
Tout Nigérien doit s'inquiéter parce que lorsqu'il y a affrontement entre institutions du gouvernement, cela inquiète les populations. Je suis inquiet aussi parce que le moment est mal choisi. Je ne pense pas que le président ait reçu de bons conseils dans l'intérêt de la nation.
Au sein de la société civile, les voix se sont fait entendre pour critiquer la décision du président Muhammadu Buhari. Jibril Ibrahim, du Centre pour la démocratie et le développement, s'est lui-même inquiet de la suite du processus électoral en cours au Nigeria.
D'abord, je suis inquiet que cette crise constitutionnelle peut avoir des effets néfastes sur la planification des élections elles-mêmes. Deuxièmement, si les élections se tiennent et le judiciaire a un rôle à jouer pour régler des litiges quelconques, les gens ne seront pas contents puisqu'il y a tellement de soupçons sur les motivations de ces actions-là.
Pour le barreau nigérian, le président a violé la constitution du pays pour non-respect de la procédure légale. Ogenovo Otemu est avocat au barreau nigérian.
C'est une très triste day, c'est la pire day so far I've experienced in my life as a lawyer.
C'est la journée la plus triste que j'ai connue dans ma carrière d'avocat. Ce qui vient de se passer nous ramène à l'époque des dictatures militaires. Et je dis que c'est un acte illégal et inconstitutionnel. Cela porte atteinte à toutes les procédures légales.
Les États-Unis et l'Union européenne ont exprimé leurs profondes préoccupations face à l'évolution de la situation et ont appelé à une résolution rapide et pacifique de l'impasse. Le président Buhari a suspendu Walter Onegan à 3 semaines des élections générales, l'accusant de corruption. La prochaine audience devant le tribunal du code de conduite devait se tenir lundi, mais on ignore encore la suite des événements après la suspension de l'accusé de son poste. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Grande mobilisation hier contre l'embargo qui pèse sur l'armée centrafricaine. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Bangui et dans d'autres villes de la République centrafricaine pour exiger du Conseil de sécurité de l'ONU la levée de cet embargo. Reportage de notre correspondant Freeman Sipila.
Des femmes, des hommes, des enfants, plusieurs dizaines de milliers, selon les organisateurs, ont pris d'assaut les principales avenues de la capitale pour converger au monument des martyrs. Tous ont une seule revendication.
Nous avons 16 préfectures, mais il n'y a que 2 préfectures qui fonctionnent. Les 14 autres sont sous la domination des rebelles. Il faudrait qu'on nous libère, qu'on libère nos armées.
Moi, je veux la levée totale des embargos sur les armes en Centrafrique pour que la paix revienne, pour que les puissent continuer mes études.
Non au maintien de l'embargo sur notre armée alors que les rebelles se réarment. Pourquoi priver un État souverain des moyens de protection de son peuple? Nous voulons la paix, rien que la paix, scandent les manifestants sur des pancartes et banderoles. C'est le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandi qui a réceptionné le mémorandum contenant leurs revendications.
Vous m'avez remis ce matin un mémorandum pour certains États et certaines institutions. Concernant les pays, les États-Unis d'Amérique, la France, la Russie, la Chine, la Guinée équatoriale, l'Afrique du Sud, les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, qui sont représentés ici chez nous en Centrafrique, je prends l'engagement de leur faire parvenir ce mémorandum aujourd'hui même.
Le chef du gouvernement, visiblement impressionné par l'effectif des manifestants, lâche dans la foule.
Le peuple centrafricain est un peuple discipliné. Le peuple centrafricain observe. Oui, il y a une discrimination qui s'installe en matière du respect de l'embargo. Le gouvernement respecte les principes de l'embargo, alors que les groupes armés, au jour le jour, reçoivent des armes de qui on ignore.
Un pari réussi pour les organisations de la société civile appelant à cette grande mobilisation qui s'est étendue dans certaines villes du pays, à l'exemple de Bouar. Cependant, ce rassemblement n'est pas sans conséquence car les activités tournaient au ralenti dans les administrations publiques et privées ainsi que dans les écoles. Célestine Bunga, proviseur du lycée Marie-Jeanne Caron.
C'est une marche pacifique. Comme nous sommes des patriotes, les enfants se sont déportés sur les lieux pour participer à la marche. Parce que c'est ce qui concerne tout le monde.
La République centrafricaine est depuis 2013 sous le coup d'une sanction de l'ONU imposant un embargo sur les armes à destination du pays. Malgré la réorganisation de l'armée nationale et son entraînement par des experts européens et russes, cette sanction n'est pas encore levée. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU devra se tenir à la fin de ce mois de janvier pour décider, oui ou non, de la levée de cet embargo. Freeman Sipila, Bongi, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Congo Brazzaville, l'État relance sa lutte contre les agents fictifs de la fonction publique et tous ceux qui touchent indûment des indemnités. Un recensement a montré que plus de 4500 agents étaient dans cette situation, nous dit Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Le gouvernement est à son énième recensement des agents publics en deux décennies dans le but de déflatter la fonction publique. Comme toujours, les résultats sont ahurissants. Des milliers de faussaires, tant dans le solde des civils que des militaires. On dénombre 4525 agents fictifs. Gabriel Mosiengo, inspecteur général des services administratifs à la fonction publique, revient sur ces comportements.
Le rapport a déjà mis en lumière toutes ces irrégularités. Nous savons aujourd'hui qui a fraudé, qui a fait usage d'un faux diplôme, qui a fait usage d'un faux texte. Tous ces éléments sont déjà disponibles dans le rapport du recensement.
Analysant les performances de la fonction publique, l'économiste Alphonse Ndongo estime que ces antivaleurs constituent un frein dans le rendement des agents de l'État.
Il n'est pas impossible que quelqu'un qui se fait prendre, comme ça a été le cas lors des derniers recensements, revienne avec des justificatifs, parfois eux-mêmes falsifiés, pour pouvoir être à nouveau intégré dans le fichier. En l'état actuel des choses, on ne peut même pas mesurer la productivité marginale d'un travailleur de la fonction publique congolaise. Les gens vont au travail quand ils veulent et en part quand ils veulent aussi. Et pourtant, tout le monde le sait que la masse salariale absorbe l'essentiel du budget de fonctionnement de l'État. Et c'est un véritable problème.
Finalement, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes à travers l'application d'une douzaine de mesures visant l'assainissement de l'administration publique. S'adressant aux agents chargés d'appliquer ces mesures, Firmin Ayessa, le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, exhorte.
Je martèle ceci simplement pour que nous tenions les délais. Nous avons été solennellement interpellés par le président de la République. Il va donc falloir que vous travailliez à ce que les délais, dans la mesure du possible, soient resserrés. Ils devraient l'être puisque la matière nous l'avons.
Les syndicats, généralement zélés dans la défense des intérêts des travailleurs, sont cette fois-ci d'accord avec la démarche du gouvernement. Édouard Adzoussa, président de la Fédération du syndicat des journalistes.
Tel que c'est défini là, c'est clair. Nous accompagnons l'État dans l'assainissement de la fonction. Ça, c'est normal, parce que c'est la vie des travailleurs. Il faut mériter ce que vous obtenez. Si vous n'occupez plus le poste et qu'on continue à vous payer comme directeur ou chef de service de bureau, ça, c'est malhonnête. Il faut le laisser à d'autres. Nous ne sommes pas contre ce toilettage-là.
Selon le dernier recensement, plus de 11 000 personnes perçoivent frauduleusement les indemnités de fonction et que la situation des militaires n'a pas été révélée. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.